Bonjour, c'est Claudine de Montpellier. Je viens d'écouter l'émission avec Monsieur Lévy, qui est un diplomate palestinien, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pour vous dire que j'avais beaucoup apprécié cette interview, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Je trouvais cet homme très très cultivé, très intelligent, très lucide. Puis je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'entende pas plus souvent ce type de discours, ce type d'explication, et aussi avec autant de retenue, voilà, quelqu'un visiblement qui milite pour la paix. Voilà, donc, et puis dernière chose, c'est aussi ce sentiment profond de tristesse et d'impuissance par rapport à toute cette injustice. Voilà, alors encore un grand merci à la Bassie, j'y suis. Bye bye à tout le monde.
Oui, ben, j'appelle pour parler des Palestiniens, mais en fait, c'est un peu culturel. Les Palestiniens éduquent leurs enfants pour tuer et les Israéliens pour construire tout ça. Une question, ne manque-t-il pas de l'argent vers les pays en voie de développement pour qu'ils puissent se moderniser, être moins cons? Merci, au revoir.
Boris Vian a écrit en 1953 un texte intitulé « Le problème du colon » dans lequel on lit ceci. Le monde du colonial ou du colon est un monde inversé où l'héroïsme c'est la boucherie, où la légalité c'est son caprice, où la justice c'est la raillerie, où le citoyen qualifié n'est pas le premier occupant mais l'intrus, et où le résistant prend le nom de terroriste. Le cerveau du colonial est-il le négatif du cerveau de l'homme normal? Et compte-t-il sur le soleil pour le développer? Voilà. Ça n'a évidemment rien à voir avec l'actuel conflit israélo-palestinien. Enfin, je crois. C'était François en Suisse, un pays bien sombre en ce dimanche soir.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Françoise de Poitiers à l'appareil. Je suis une fidèle de ton émission depuis plusieurs années. Je l'écoute dans ma voiture le soir. Ben, tu vois, ce vendredi 17 octobre, après avoir entendu le message du répondeur, j'ai choisi de mettre un CD plutôt que de t'écouter. La Palestine, Israël, c'est terrible, c'est dramatique. Ben, après avoir entendu le message de cette maman qui en peut plus, tu vois, vraiment, je préférerais que tu nous fasses une série d'émissions sur la France d'en bas, qui en peut plus d'être exploitée, qui en peut plus des contrats précaires, qui en peut plus d'être managée en entreprise par des types ou des bonnes femmes qui ont rien compris à l'humain. La France d'en bas qui en a ras-le-bol des taxes du gouvernement, des impôts. Vraiment, j'aimerais bien que tu t'intéresses à ça aussi et que un peu plus tard, on reparle de la Palestine. Voilà, merci de ton écoute, félicitations pour tes émissions, je resterai fidèle malgré tout, mais ce soir j'avais vraiment un gros ras-le-bol sur le cœur.
Merci de vos messages, merci toujours, c'est toujours la surprise hein, chaque jour de savoir qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses et tout, et c'est très beau cette idée de revenir un petit peu ici et que bon, la Palestine sera pour une autre fois, mais c'est quand même aujourd'hui. Aujourd'hui on va à Gaza, on continue ce carnet de route le long du mur, au pied du mur, et là on sort un petit peu puisqu'on va on va à Gaza, on va rencontrer un homme tout à fait remarquable. Vous avez été très intéressé par les explications et le regard partisan, il faut dire les choses très clairement, d'Ilan Halevi, vendredi. Et là, c'est un autre regard différent, celui du Raji Sourani, qui est avocat et qui est directeur du Centre palestinien des droits de l'homme à Gaza et qu'on va rencontrer. Auparavant, d'autres messages, 01 56 40 37 37.
Bonjour, je suis un jeune prof athée, amoureux des sciences, et je suis franchement choqué par l'exclusion de filles voilées de certaines écoles françaises. Je ne comprends pas au nom de quel principe on se permet de telles décisions. Il y a peut-être des règlements intérieurs à appliquer, mais quand une règle est injuste, c'est notre devoir de la changer ou de l'abolir. Est-ce que c'est pour défendre les femmes face à l'oppression masculine qu'on prononce ces exclusions? Si c'est le cas, ça n'a aucun sens de renvoyer les filles à leur famille ou à des écoles religieuses plutôt que de leur permettre une vie sociale et scolaire normale. Est-ce que c'est alors pour garantir l'absence de tout signe religieux dans l'espace scolaire? Si c'est le cas, il faut lutter contre tous les signes religieux, y compris les croix chrétiennes, les kippas, etc. Je vous invite à tester votre intuition éthique en imaginant que vous entendez à la radio « Deux garçons viennent d'être exclus d'un établissement français parce qu'ils refusaient d'enlever leur kippa ». De toute façon, je vois mal pourquoi on interdirait les signes religieux ou tout autre comportement des élèves ne nuisant pas au bon déroulement des cours et ne portant pas directement atteinte aux personnes. Si on se permet d'aller au-delà de ces critères, pourquoi ne pas expulser aussi les élèves dont la coupe de cheveux ou le style vestimentaire nous dérange? Ce qui pose problème, c'est quand les institutions de l'État elles-mêmes privilégient telle ou telle religion, ou que les écoles cessent d'établir leurs enseignements et leurs activités sur des critères scientifiques et pédagogiques pour donner une place à la pensée religieuse. C'est seulement dans ce cas qu'il y a, à mon avis, atteinte à la laïcité. N'existe-t-il pas d'ailleurs des avantages institutionnels accordés à l'enseignement du christianisme en France? N'est-ce pas là un vrai problème? Je soupçonne les partisans de l'exclusion, d'islamophobie, voire de racisme anti-arabe. L'idéal des Lumières qu'ils prétendent défendre ne peut par définition triompher que par la libre confrontation des idées, pas par les abus de pouvoir. Et l'oppression des femmes ne se résout pas en ajoutant l'exclusion scolaire à d'autres formes d'exclusion sociale.
En ce qui concerne la question de la laïcité à l'école, et en particulier du port du foulard, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on n'accorde pas trop de sérieux à des choses qui n'en ont pas, et pas assez à d'autres qui en ont besoin? Et je vous propose une idée, qui n'est pas de moi, mais que je trouve très intéressante, et qui pourrait apporter un peu d'oxygène dans le débat. La voici. Une jeune fille arrive au lycée ou au collège voilée, on l'accepte, et dès le lendemain, tout le monde dans l'établissement, aussi bien garçons que filles, profs, personnel d'administration, etc., adoptent la nouvelle mode et se pointent en foulard. On pourrait même agrémenter le foulard d'une ou deux kippas, d'un chapelet ou deux, d'une ou deux croix. Enfin, il y a de multiples possibilités, toutes stimulant la créativité. Je laisse la place à vos imaginations. Au revoir.
Quand est-ce que Sarkozy sera muté en Corse? Cela lui évitera les fatigues très dures des voyages aussi nombreux qu'inutiles. Deuxième point, le Premier ministre et Madame Chaudron de Courcelles, épouse Chirac, ont assisté au procès en béatification de Mère Teresa. Madame Chirac doit être contente d'assister à un procès qui ne soit ni de justice ni le sien. À quand le procès en béatification de son époux Jacques?
Voilà le mur. Alors là, c'est le mur version béton.
C'est plein d'eau. Et il y a tous les quelques centaines de mètres un talus. Ah, il est exactement à la hauteur, c'est-à-dire lorsqu'une jeep monte sur le talus, sa mitrailleuse lourde est exactement à la hauteur du mur. C'est pour tirer de l'extérieur sur l'intérieur, puisque de l'autre côté du mur, on a la ville de Qalqidia.
Ah oui, 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 oui.
Et il y a aussi tous les quelques centaines de mètres un mirador, c'est ces tours à Kerstein. Des tours construites par la compagnie à Kerstein, comme le mur d'ailleurs, c'est une compagnie de béton.
Israélienne.
Mais comme ils ont une chaîne de production, il y a trop de tours. Alors maintenant, il y en a partout dans le pays, on met des tours, ce genre de tours très hautes, très moches. C'est des éléments composés, on peut la faire deux fois plus haute, trois fois plus haute.
Modulable.
Et à l'intérieur, il y a une petite salle de bain. On peut vivre dans cette tour.
Au pied du mur, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, qui ventille.
Flight number 2, arriving from New York.
Les Israéliens sont prisonniers à la fois de leur peur et de leur force. La combinaison de leur peur et du sentiment de leur force est très mauvaise conseillère. Elle inspire la foi aveugle dans à la fois la nécessité de leur propre violence, ça c'est la peur, qui est productrice d'agressivité, et puis le sentiment de leur force qui est la certitude que ça va marcher, parce qu'ils sont les plus forts.
À Gaza, la population de Gaza, il y a 80% est composée de réfugiés, c'est-à-dire des gens dont les parents ou les grands-parents sont arrivés en 48 à Gaza. La bande de Gaza est le plus grand camp de réfugiés.
Bienvenue à Gaza, françaises, français, c'est-à-dire antisémites et antisémites. Nous sommes tous des antisémites aujourd'hui, si l'on en croit le quotidien israélien Mariv, qui hier a publié la photo de notre président de notre République avec comme titre « Le collaborateur ». Qui est en fait Jacques Chirac, eh bien c'est un anti-Dreyfusard, tout comme tout comme la majorité des Français qui collaborèrent avec les nazis pendant l'occupation de leur pays, aux côtés du maréchal Pétain et des centaines de milliers de Français qui pourchassèrent les Juifs de France, aux côtés enfin de ceux qui aidèrent des dizaines de milliers de collaborateurs à échapper au châtiment et même à continuer de servir à des postes importants pendant des décennies. Il est exact, reconnaît l'éditorialiste du Maariv, Amnon Dankner, il est exact qu'il existe des antisémites plus grand et plus brutaux et plus virulents, mais aujourd'hui, l'antisémitisme ne dispose pas dans le monde de collaborateurs actifs occupant une position aussi élevée. Voilà, en lisant ces lignes, je vous avoue que je me sens beaucoup moins seul, puisque aujourd'hui, enfin, nous sommes tous antisémites, au moins les Français qui ont voté pour ce président antisémite de notre République antisémite. Alors, vous connaissez l'incident. C'est un incident pour l'instant de presse, mais le lendemain, le ministre israélien des Affaires étrangères, Sylvain Shalom, a poursuivi en estimant « c'est une honte qu'un pays comme la France, un pays important, fasse preuve de la moindre compréhension ou acceptation des remarques antisémites ». C'est un bémol important, n'empêche que la querelle est là. Et le journal Maariv s'est fait une spécialité de cette condamnation de la France, de jeter l'opprobre sur la France qui serait le premier pays, le pays le plus antisémite du monde. D'ailleurs, Ariel Sharon l'avait indiqué. Mais je prends un petit extrait du Maariv, daté du 30 décembre 2001, et qui disait ceci. « Les lumières de Paris ne suffisent pas à percer l'ombre antisémite qui s'étend peu à peu sur la presse française. En s'attaquant à la politique de Sharon et en qualifiant systématiquement Israël d'agresseur des pauvres Palestiniens, la presse française est à l'origine de nombreux dérapages antisémites. Les attaques incessantes des médias contre Israël rappellent étrangement les publications antisémites du temps de Vichy. Il est plus tragique encore de voir certains journalistes juifs ou israéliens d'extrême gauche servir à leur insu la cause de l'antisémitisme. C'était un éditorial du Maariv, donc signé de Uri Dan, du 30 décembre 2001. Des papiers comme celui-là, on en trouve effectivement, on en trouve beaucoup, on en a trouvé beaucoup, puis on en trouve à nouveau beaucoup dans la presse israélienne. On voit d'une manière claire, éclatante, que le chantage à l'antisémitisme, que l'usage de l'arme paralysante de l'antisémitisme est une arme de propagande utilisée depuis 3 ans, peut-être plus, mais en tous les cas depuis 3 ans, par le gouvernement israélien et ceux qui ici prolongent cette propagande, qui a pour but quoi donc de créer une diversion afin d'étouffer le débat, tant il est difficile de convaincre effectivement du bien fondé de la politique conduite par le gouvernement israélien. Ceux qui vident de cette façon le sens de ce mot prennent la responsabilité de banaliser l'antisémitisme, parce qu'évidemment si Chirac est antisémite, alors la France est antisémite et l'antisémitisme n'est plus une urgence, n'est plus une chose si grave que ça. C'est une banalité, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est l'un des désastres que cette seconde intifada, ces 3 années, auront apporté à la conscience humaine. C'est quelque chose de grave et évidemment on y reviendra dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on va donc à Gaza où on va rencontrer Raji Surani qui est avocat et qui est le directeur du Centre des droits de l'homme du palestinien. C'est un homme cultivé, c'est un homme animé, c'est un homme dissident. Il a été arrêté 6 fois par les autorités israéliennes, il a été en prison 6 fois, et une fois par l'autorité palestinienne aussi. C'est avec Raji Surani qu'on va essayer. C'est un homme évidemment d'engagement, c'est un homme de conviction, mais c'est un homme aussi qui va essayer de nous faire comprendre de l'intérieur et du point de vue du droit la situation aujourd'hui au Proche-Orient.
Arut Sheva en français, il est 19h. Arut Sheva, Khadashot.
Bonsoir. Tant qu'à se faire condamné par les nations pour une opération de destruction d'un camp d'entraînement terroriste du djihad et du Hamas en Syrie, au moins que cette opération serve vraiment à détruire le camp d'une façon définitive. Après le double attentat de Jérusalem et de Tzrifin, le cabinet avait décidé l'expulsion d'Arafat. Je suis contre cette décision. Elle est absurde parce qu'elle fait de ce terroriste le point de mire, le centre du conflit. Nous savons que le problème est bien plus profond. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut traîner Arafat devant un tribunal, le juger tel un criminel de guerre et l'exécuter comme nous avons exécuté Eichmann. Mais le cabinet a pris une décision, celle de l'expulser. Admettons, un nouvel attentat est intervenu. Et où se trouve Arafat ? Toujours à la Moukata, à nous narguer avec ses copains gauchistes. Ne croyez surtout pas qu'à travers les mots et la colère, c'est la vengeance que le peuple d'Israël réclame. Le peuple d'Israël a soif de justice et de vérité. Il faut rétablir la vérité historique concernant les Arabes palestiniens. Cette terre n'est pas à eux. Et il faut appliquer une justice implacable, punir très durement tous ceux qui assassinent notre peuple, ceux qui les commanditent, ceux qui les financent, ceux qui les soutiennent. Il faut une fois enfin parler de la responsabilité collective des Palestiniens. Nous sommes parvenus au summum de notre dégoût. Et si nous voulons sortir intacts de cette guerre qui n'ose pas dire son nom, il faut frapper sans pitié parce que les Arabes n'en ont aucune. Au lieu de cela, chacune des réactions de Tsahal est pitoyable. Je ne sais combien de maisons nous avons détruites, mais nos dirigeants ont transformé ce pays en une entreprise de démolition immobilière. Tout cela démontre son impuissance, son absence de vision globale. Aucun pays au monde n'aurait accepté le dixième de ce que nous endurons. Ces valses hésitations de nos dirigeants sont l'expression d'une faiblesse de l'esprit, l'expression d'un déficit de conviction. Allez, bonsoir.
Voilà des petits échos de la radio de nos confrères. Oui, ben oui, ils font de la radio aussi. C'est la radio des colons, des colons israéliens. Voilà, on voit une diabolisation, puisqu'on parle toujours de diabolisation, de nazification. Eh bien là, il y a une diabolisation d'Arafat qui est comparée à Eichmann. Tout ça, c'est pour donner un peu le ton de tension, de pression, de passion et de haine qui agite et qui traverse et qui étreint cette région et ce conflit. Et là, ça s'arrange pas puisque on est à Gaza, tension, et détention, on pourrait dire sans jeu de mots. La et puis épuisement aussi parce qu'au bout de 3 ans, les habitants de Gaza, les Gazaouis comme on les appelle, sont épuisés. C'est pas long de comprendre que s'ils pouvaient partir, ils partiraient. Il y a vraiment une, il y a un désespoir du côté palestinien qui est tangible, même si évidemment on essaye de le dissimuler aux journalistes et à l'ami, parce que bah oui, peu à peu on a des amis aussi là-bas. C'est d'ailleurs avec l'un de ses amis, un excellent traducteur par ailleurs, que nous rencontrons aujourd'hui Raji Souhani, qui est avocat et donc directeur du Centre des droits de l'homme palestinien à Gaza.
Raji Souhani, on a l'impression que vous êtes fatigués un peu tous, les Palestiniens là, qui vous battez pour les droits de l'homme. Vous avez l'air d'être tous un peu essoufflés après 3 ans d'intifada, parce que ça fait 3 ans cette intifada.
C'est notre droit que d'être fatigué, parce que nous inscrivons dans le destin quand même d'un peuple, de vie humaine. Tous les jours, on est des témoins de cette destruction, de cette impasse, des maisons détruites, des gens qui perdent la vie. Et ça fait partie de notre vie. C'est notre droit d'être fatigué, de courir toujours et de vivre cette situation.
نحن لن ننسى ولن نغفر ما مورس من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
Il y a deux points essentiels quand même qui restent pour nous. Il ne faut jamais oublier les crimes qui ont été pratiqués contre les civils palestiniens dans les territoires occupés.
وفي نفس الوقت نحن لدينا تفاؤل استراتيجي يقيني بانتصار العدالة في نهاية الأمر.
Mais au même moment, c'est un point qui nous guide, c'est que nous sommes de façon stratégique optimistes qu'un jour c'est la justice qui va vraiment gagner dans la région.
إذن لدينا إحنا مزيج بسيط من الألم والمعاناة الإنسانية ومن التمتع بالتفاؤل الاستراتيجي.
Ça veut dire que c'est une combinaison de douleur, de souffrance à cause de ce qui se passe tous les jours. Et aussi cet optimisme stratégique parce que nous croyons que la justice finira par gagner.
Supposons qu'on détruise votre maison. Est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au village ou bien vous partez en Jordanie?
Je vais
rester assis ici et qu'ils détruisent la maison sur moi.
Après ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Je vais vous faire de la maison. Je ne sais pas si je vais vous faire de la maison. Je ne sais pas si je vais vous faire de la maison. Je ne sais pas si je vais vous faire de la maison. Mais qui a décidé de faire de la maison? אז אני לא יודע מה אני, אבל אני בטוח שאני אעשה משהו קשה, אני קשה לי ולהם.
Après ça, s'ils détruisent ma maison, ça sera sur moi. Après ça, je ne sais pas ce que je ferai. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'irai avec le Hamas, je n'irai pas avec le Hamas. En tout cas, je suis sûre que je ferai quelque chose de très dur et de... très dur.
C'est terrible, il y a cette petite fille et ces petites copines là qui sont en train de brandir la photo de son père en disant Hamas, en disant Jihad, en disant Shahid. Jihad, yes. Hamas.
Désespoir et rage des Palestiniens qui ont à choisir entre l'enfermement, le ghetto, c'est le cas de Gaza, le fusil, la résistance, ou bien partir. Et tout semble fait... évidemment pour pousser les Palestiniens à partir. Certains sont déjà partis. Les chrétiens de Bethléem sont un certain nombre de Palestiniens chrétiens de Bethléem sont partis. Et là, la tentation est très grande. Comment continuer de vivre dans de telles conditions, de survivre, élever des enfants dans des endroits pareils, évidemment, c'est tout à fait terrible. Voilà pourquoi quelqu'un comme Raji Sourani parle de nettoyage ethnique.
Vous considérez que Israël se livre à des nettoyages ethniques?
في أحدث ما تقوم به إسرائيل من إجراءات هو ما يسمى بين قوسين السكيورتي فنس أو الجدار الأمني وهذا بذاته.
La dernière politique d'Israël, et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est la construction de ce mur de sécurité.
إسرائيل بهذا الجدار الذي تدعي تقدم 55% من أراضي الضفة الغربية.
Avec ce mur, Israël avale 55% du territoire de la Cisjordanie.
وهي الأراضي المقاومة موجود عليها المستوطنات الإسرائيلية والموجود عليها المياه الفلسطينية الموجود عليها المزارع الفلسطينية.
C'est des territoires où il y a les colonies israéliennes, mais c'est aussi les territoires où il y a l'eau et où il y a les fermes qui appartiennent aux Palestiniens.
إسرائيل بالإضافة إلى ما ستقوم به تدفع في اتجاه نكبة جديدة على غرار نكبة 1948 وسوف تدفع الفلسطينيين باتجاه لترانسفير الطوعي من المناطق المحتلة على ضوء ما تمارسه من إجراءات.
Israël est en train de préparer une autre catastrophe assimilable aux catastrophes de 1948. Ils sont en train de pousser les Palestiniens ce qu'on appelle le transfert volontaire de leur propre gré. À cause de la situation nouvelle, les Palestiniens vont être poussés à partir. C'est la politique israélienne actuelle, c'est d'obliger les populations civiles de quitter ces villes, ces territoires et de s'installer ailleurs.
Pourtant, ce mur fait l'unanimité dans le camp israélien, et d'une certaine façon, c'est effectivement la reconnaissance de l'État palestinien, au moins pour la majorité de l'opinion israélienne.
Non, je ne suis pas d'accord, absolument pas vrai.
Je ne sais pas ce qu'est l'Ijma en Israël, je ne sais pas ce qu'est le droit international et le droit international.
Regardons les choses de point de vue légalité internationale, le droit international. C'est pas l'unanimité israélienne qui décide de ce qui est de droit ou pas.
وهو الأمر الذي ترفض إسرائيل حتى الاعتراف به هي ترفض أن تعتبر المناطق الفلسطينية محتلة مناطق فلسطينية محتلة منذ العام 67 وحتى اليوم.
Un jour, Israël refuse toujours de reconnaître que les territoires occupés sont des territoires palestiniens occupés depuis 1967.
عملية ضم 55% من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل عبر الجدار الأمني يعني أن لا يوجد دولة فلسطينية يوجد بندستانات فلسطينية غير قابلة للاستمرار والحياة ويتم الدفع بها باتجاه طرد السكان بصورة طوعية من المناطق المحتلة.
Ça veut dire que d'avaler et annexer 55% de territoire de la Cisjordanie, ils annexaient à Israël avec la construction de ce mur. C'est pas favoriser la création d'un État palestinien, mais c'est aller dans le sens de la création de plusieurs bancs d'estin où il y a les Palestiniens qui seront entassés. C'est une façon directe pour dire aux Palestiniens qu'il faut partir.
Est-ce qu'ils vous ont proposé de l'argent?
Oui.
Combien? Beaucoup?
אמרו לי תשים את את המספר שאתה רוצה.
Ils m'ont dit donne la somme que tu veux mettre.
Ah bon?
כן.
Alors ça peut être une grosse somme?
אני לא יודע. אני לא חשבתי בכלל על דבר כזה.
Je sais pas mais j'ai pas pensé une seconde à faire ça.
Ah. אמרו לי אני מתי אם אתה לא רוצה לצאת מהבית ולא רוצה בסופו של דבר يعني אנשים של הביטחון. אז נשלח מישהו, הוא יעמוד בבית שלך, אחרי שיגמור הסיבור כולו, שנשלח מישהו שירה מבו על המתנחלים בו על היישוב, ואחר כך אנחנו נרוס לך בית. يعني, אם אתה לא רצית, אז בסופו של דבר יש לנו מאיפה ניכנס ונרוס לך בית, ונשים לך, גם נשים לך שאתה...
Les gens de la sécurité pour me convaincre de sortir de ma maison, ils m'ont dit ah, si toi tu sors pas de ta volonté, de ta pleine volonté, on va trouver une méthode. Par exemple, on va envoyer quelqu'un qui va soi-disant ou qui va tirer de ta maison vers les colonies qui sont juste là à côté, et comme ça après, on aura le droit de détruire ta maison. Donc on peut toujours trouver des solutions.
Qui vous a dit ça?
Cette personne-là, je sais plus comment elle s'appelle, de la sécurité.
Trois millions et demi de Palestiniens placés sous occupation militaire israélienne et qui n'ont pas d'autre droit que de se plier à ce que décide cette armée d'occupation sur leur territoire. On peut dire occupation aujourd'hui, il y a quelques mois encore, ça faisait de vous un antisémite présumé, mais aujourd'hui, depuis que il y a quelques mois, Ariel Sharon lui-même a employé ce mot, eh bien, on peut l'employer donc, bien sûr, et ça revient quand même à dire quelle est cette situation, c'est-à-dire l'occupation depuis 35 ans des territoires de Cisjordanie et de Gaza où nous trouvons et où la tension est très très forte. On est avec Raji Sourani, je le rappelle, avocat et directeur du Centre des droits de l'homme palestinien. Raji Sourani. Vous pensez qu'il y aura peut-être enfin État palestinien, mais un État palestinien invivable, qui ne sera pas viable.
Ce que
veulent les Palestiniens, bref, c'est trois choses essentielles. On finit avec l'occupation. Qui est d'accord avec une occupation ?
ثانياً تطبيق القانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف الرابعة من هو ضد القانون الدولي الإنساني؟
Appliquer le droit international, la quatrième convention de Genève. Qui est contre ça؟
الثالث إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ونحن نتكلم عن 6800 كيلومتر مربع هذه هي مساحة الدولة الفلسطينية المزعومة.
Et troisièmement, c'est la création d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem. Nous parlons ici de 6800 kilomètres carrés, le minimum.
هي التي تمارس الحرف ديريلينج يعني لا لا الصراع باستمرار من قتل من ضرب إلى آخره إلى أن صورنا نحن في النهاية ونحن شعب محتل ويعاني من جرائم حرب منهجية منظمة ضدنا إلى أننا نجعل من الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول ضحية. هذه هي كافكا. نحن الإرهابيين والاحتلال هو الضحية.
Nous sommes dans une situation kafkaïenne parce que nous aujourd'hui, depuis le début, Israël n'a cessé de dérailler le processus, la question, la cause palestinienne. C'est toujours s'appuyer sur des détails qui sont pas vraiment, qui ne sont pas en lien avec ce qui se passe sur le terrain. D'une situation où nous sommes les victimes d'une occupation et des crimes organisés contre la population civile, contre le projet d'émancipation et de libération, on est devenu, nous, les agresseurs, et c'est l'occupant qui devient la victime. C'est ça la situation kafkaïenne, c'est que c'est les occupants aujourd'hui qui demandent la solidarité internationale contre les victimes, les vraies victimes d'une situation d'occupation.
الله انا بايد هذه العمليات الاستشهاديه بايدها
je suis d'accord avec le martyr qui s'est fait exploser.
Mais tu penses à tous ces jeunes israéliens qui sont morts comme ça, qui étaient innocents?
هذول كلهم شباب, هذول يمكن كلهم في الجيش, هذول قتلهم للسحسم العجايز.
Oui, c'est des jeunes, demain ils vont aller à l'armée et ils vont venir me tuer ici.
كل الناس هذه متفجرات واحنا بنفجر.
Donne-nous de l'explosif, nous sommes prêts.
On entend des choses terribles, hein. Maintenant, tu es prêt à y aller?
Nous n'avons plus rien à perdre.
Et c'est terrible d'entendre là pour les vieux de 32 ans.
Hein?
Tu penses que les enfants ont raison? Toi qui as fait la première intifada en 86, hein, tu étais jeune. Est-ce que tu penses qu'ils ont raison, ces enfants? Est-ce que tu les encourages?
صحيح احنا بدناش نبالغ كثير يعني هو هذه مشاعر اطفال مشاعر سن صغير يعني
il faut pas trop exagérer hein c'est les sentiments des enfants c'est les sentiments des très jeunes
ما فيش حد بينظمهم ولا بيأطفالهم هاي مشاعر وردة فعل طبيعية من الشعب تجاه المجازر اللي تحدث لشعبنا بعد كل شهيد
d'autres membres de la société c'est leur ils expriment leurs sentiments et leur frustration de cette occupation.
Mm-hmm. Mais tu es d'accord que ce sont des sentiments des enfants, ils ne sont pas vraiment, réellement prêts à faire ça.
Oui, c'est vrai ça.
طفل اللي زي هذا بتفرج على التلفزيون يعني بحب يتفرج على المشاهد الفلسطينية وعلى المواجهات وعلى يعني من من نعومة أظافره بيطلع يعني بيطالب بأنه يتفرج ويشوف ويشارك وبدأ يطخ اليهود هاي كلها مشاعر خلقتها يعني ردة فعل اليهود علينا.
Mais les enfants, quand ils regardent la télé, ils voudraient participer à l'intifada, ils voudraient participer au combat. C'est une réaction dans leur situation. Ils veulent s'en sortir de cette situation. C'est quelque chose qui est imposé. Parce que ces enfants, ils se couchent, ils se réveillent, sur les bruits des bombes. Ils voient au quotidien, c'est leur ami, c'est leur copain, Mohamed Dorra, qui a été assassiné. Ils ont vu les images à la télé plusieurs fois. C'est aussi un enfant comme eux. Beaucoup d'enfants qui sont comme eux, qui ont été tués ou blessés.
Attention à ce qui se dit avec ces enfants. Il faut compter avec ce que j'avais appelé le CEP, le coefficient d'excès palestinien. Et puis on est des journalistes, donc on veut faire passer des messages. N'oublions jamais que nous sommes des manipulés. Le journaliste est un manipulé, qui manipule, mais qui est manipulé aussi d'abord. Et d'ailleurs, il faudrait parler aussi du coefficient d'excès israélien. Hein, c'est les mêmes pressions, les mêmes manipulations qui s'exercent sur les journalistes. Je veux dire par là, on s'en doutait bien, qu'il y a un espace entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Une fois qu'on les met à plat, qu'on les analyse, qu'on les scripte, etc., ça prend toute une autre dimension et ça peut s'interpréter de façon différente. Ainsi en est-il des attentats terroristes. Qu'en pense, quelle est la position de Raji Sourani, je vous rappelle, directeur des droits de l'homme palestinien. Je voudrais qu'on parle d'un sujet délicat, mais qui est au milieu de toute cette affaire, ce sont les attentats suicides. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez?
C'est insulter un activiste qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, cette question.
Alors je vais poser, puisque vous pensez que ma question est une insulte.
C'est une question de principe. Elle est contre toute agression. C'est sur le principe. Mais j'ai refusé de signer un papier qui dénonce ces attentats, ces actes, parce que la raison était que ça ne donne rien sur le plan politique. Non, moi c'est sur le principe que je condamne ces attentats. C'est pas parce que ça donne rien sur le plan politique. L'être humain est un sang sacré, qu'il soit juif, musulman, chrétien, bouddhiste ou autre. Tous les hommes ont droit à la vie. Avant de commencer, je ne suis pas un fan de Hamas avant, je ne le suis pas maintenant et je ne le serai pas. C'est sur un plan politique. C'est avant de répondre.
En 1988,
il y a eu même une sentence qui a été donnée par des activistes de Hamas pour l'exterminer.
Pour vous exterminer, vous ?
Hamas fait partie du paysage politique palestinien.
Et
moi j'ai défendu cette diversité dans tout ce qui est légal, bien sûr. Que le mouvement Hamas soit plus fort ou plus faible, cela dépend de trois choses.
Ijram Sharon.
La criminalité, degré de criminalité de Sharon.
La
continuité de l'occupation et son approfondissement. Et rester dans ce cercle vicieux de violence.
Donc vous pensez que c'est Israël, c'est la politique israélienne qui fabrique le Hamas et qui développe le Hamas?
Je n'ai pas dit que Israël a fabriqué le Hamas.
Que
les pratiques israéliennes ici ont favorisé la création de Hamas. Moi, je ne veux pas d'un État palestinien. Ma famille est ici depuis 12 siècles.
Je
veux un État dans lequel je suis citoyen, que ce soit Israël, que ce soit la Palestine, que ce... je veux un État dans cette.
Comme a dit Edward Said, Chomsky et d'autres.
Comme a dit Edward Said, Chomsky et les autres, il y a deux conditions pour cela.
Moussawa fi al-muwatana,
égalité dans la citoyenneté.
Wa haqq al-awda kama yantabiq 'ala al-yahud ba'd 2000 sana.
Et droit de retour, comme c'est le cas et comme c'est appliqué pour un juif 2000 ans après.
Yantabiq 'ala al-falastini,
droit appliqué pour un palestinien aussi.
Yahudi ou masihi ou muslim,
chrétien, musulman et marxiste.
Faqat.
C'est tout ce que je demande.
Comment se sortir de cette situation?
Je l'ai dit simplement.
C'est
un des conflits les plus complexes, mais aussi un des conflits les plus simples.
Allons du côté simple.
Ou un État binational.
Ou
en finir avec l'occupation, appliquer le droit international et créer un État palestinien pour les Palestiniens aussi. À Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem.
Alors, entre les mots, entre les déclarations d'intention, entre le bluff, entre les principes, entre les réalismes, entre les rêves qu'il faut abandonner, c'est très difficile de comprendre ce que disent vraiment les gens, ce qu'ils ont vraiment derrière la tête, encore une fois. C'est pas seulement les gamins qui voient venir le journaliste et qui lui font croire qu'ils vont se précipiter tout de suite avec des explosifs autour de la ceinture. C'est aussi les intellos, c'est aussi les politiques, c'est aussi tout le monde ment à tout le monde. Difficile de savoir quelle est la vérité. Mais bon, on essaye, on est là pour ça, pour essayer de comprendre et parfois de sentir aussi, ça peut être un révélateur. Alors, la question, la grande question qui revient tout le temps, évidemment, qui est une question cruciale, c'est la question des réfugiés palestiniens. Qu'en pense Hadji Souhani, compte tenu de ce que je viens de vous dire?
La question des réfugiés, c'est la question la plus délicate, c'est-à-dire que
si on accepte le retour des réfugiés, l'État d'Israël perd son identité, sa nature d'État juif.
Pour
cela, Israël est un État raciste.
L'applicabilité
des droits de l'homme, de la loi internationale. Un réfugié, palestinien ou autre, c'est un réfugié qui a le droit de retourner. C'est ça la loi humaine et internationale.
السؤال الأول في موضوع اللاجئين عشان أتناوله يعني بعلمية هو
أولا
جوهر القضية الفلسطينية هي قضية لجوء.
C'est l'essence même de la cause palestinienne. Cette question des réfugiés, c'est vraiment la base, le fondement de la cause.
وكل المؤرخين الجدد التاريخ قالوا بأن إسرائيل مارست إرهاب دولة منظم ضد الفلسطينيين من أجل طردهم من فلسطين.
Les nouveaux historiens israéliens, ils ont dit que Israël a procédé à une politique organisée, discriminatoire pour expulser les Palestiniens de chez eux.
On parle de 1948.
الآن نحن في الجيل الثالث من اللاجئين.
Aujourd'hui, nous avons la troisième génération parmi les réfugiés.
هل يتصور أحد إنه الفلسطينيين هم سيلف فيكتم يعني هم اللي يعني كيف بسموها؟
Est-ce qu'on imagine que les Palestiniens sont les victimes, sont eux-mêmes leurs propres victimes؟
ولا إسرائيل اللي جعلتهم لاجئين؟
Ou c'est Israël qui a causé cette situation de refuge؟
بعد 55 عام.
55 ans après.
سياسي رسمي إسرائيل واحد
politicien israélien
إسرائيل مسؤول
qui a dit que c'est Israël qui porte la responsabilité politique et morale et juridique de la question des réfugiés.
Je défie
quiconque qui me dit qu'il y a un seul politicien, homme politique responsable israélien qui dit que c'est Israël qui porte la responsabilité de la situation.
Si
on veut régler cette question de réfugiés, il faut reconnaître pour la victime la responsabilité de celui qui a causé cette situation. Il faut dire aux Palestiniens, il faut que les Israéliens disent aux Palestiniens, c'est nous qui avons causé cette question de réfugiés. Et on ne peut pas parler de la question de réfugiés avant de reconnaître la responsabilité d'Israël vis-à-vis de cela.
Et alors il y a un officier de l'armée israélienne avec beaucoup d'imagination a même parlé de la possibilité d'établir un grand fossé avec des crocodiles.
Ajay Sourani, le problème des réfugiés, vous l'avez bien décrimé. Une fois ce droit reconnu et une fois la responsabilité d'Israël reconnue dans le fait historique.
C'est la responsabilité historique. C'est responsabilité historique, légale et politique. Deuxièmement,
quand on reconnaît
la responsabilité, on va dire qu'il y a un problème. Maintenant, concrètement, quelle solution?
De facto,
il y a eu un problème qui a eu lieu. Comment on va traiter ce problème?
لا يحل اللاجئ الفلسطيني.
C'est pas le réfugié palestinien qui va trouver une solution à ça. C'est pas l'autorité palestinienne seulement.
ولا تحل الدول المضيفة للاجئين.
Pas les pays d'accueil des réfugiés aussi seulement. Mais les réfugiés, les représentants, leurs représentants politiques, qui est l'organisation de la libération de la Palestine, et les pays voisins et Israël. L'Union européenne aussi, les Européens, ils peuvent contribuer pour trouver une solution.
Il y a plusieurs
choix qui seront posés à ce moment-là. Je commence par la reconnaissance de la responsabilité. Je reconnais que le problème existe. Je reconnais le droit des réfugiés. Et après, je trouve une solution. C'est pas à moi que cela revient de trouver une solution. Je sais que tout problème peut être réglé sur un plan politique et dans l'intérêt de tous.
Mais
je ne peux pas commencer par demander à la victime de reconnaître qu'elle est victime de son propre gré et par ses propres moyens et de leur dire, voilà, trouvez vous-même votre solution.
Et vous êtes d'accord que le problème des réfugiés est le problème principal?
Non,
toute question avec Israël est une question principale.
يا رجل كل هذا بيعرفش انه غزة 42% مسيطرين عليها.
غزة يكونترول 42% دي تيريتوار دو لا باند دو غزة.
غزة 365 كيلومتر مربع.
365 كيلومتر كاري
لا باند. 42% مسيطر عليها ب 19 مستوصل
ب 6000 مستوصل. 16 كولوني avec 3000 كولون اسرائيليين.
طيب والقدس؟
اي جيروزاليم.
طب والمستوطنات؟
اي لي كولوني.
طب وادي الاردن؟
اي لو فالي دو جوردان.
ما فيش شيء مش عاملينه مشكله. كذابين.
C'est eux qui créent des problèmes. Et nous, on est en train de parler aujourd'hui de ce mur.
Fence.
De séparation.
French fence. شويه شجر بسموه فنس من جدار
يا فنس اللي لا بيل با مور اللي بيل فنس
كلوتور ايشي ايشي مجنون بقول لك فيش مشكله للذي كل شيء عنده مشكله
يبقى ان بروبليم بور لو نو تو تي بروبليم avec
اسرائيل كل امي بتقول لي
ما
سامر حتى هذه غزه اللي بيسموها مزبله يا ابني مستكبرين علينا
غزا كي سي ان ليو دوردور aujourd'hui ils disent que c'est trop pour nous.
Voilà, voilà le coefficient d'excès palestinien dont je vous parlais, c'est emporté. Mais c'est que, évidemment, ça fait 25 ans que cet homme, avocat, se bat et essaye de faire comprendre, et de comprendre aussi, une situation extrêmement complexe qu'il essaye de nous décrire telle qu'il la voit de son point de vue de palestinien, mais de Palestiniens en sur le terrain, hein. C'est pas dans un bureau tranquillement bien au chaud à Paris à l'arrière que ça se passe. Ça, c'est sur le terrain et avec les hélicoptères et les F-16 qui passent dans le ciel.
Gullo ijib Gaza wa Daffa wa Al-Quds ana bajib lo tawqi' al-jihad wa Hamas.
Donnez-nous Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem, et vous avez un accord absolu et définitif de jihad et de Hamas.
Ça, vous êtes sûr de ça? Si un accord de ce genre-là intervenait, vous êtes sûr?
Comme il te voit.
Moi, je ne suis pas sûr de ça.
Moi, je suis sûr.
Vous êtes sûr?
Il a 50 ans, et ça fait 22 ans qu'il est dans cette affaire.
Vous êtes sûr que vous pouvez créer un État palestinien viable et démocratique?
Ou un démocrate?
Donnez-nous la chance, on va essayer. Pourquoi Israël doit être uniquement l'oasis de la démocratie? Non, ce n'est pas une démocratie. C'est un État d'apartheid. Nous, on a une chance pour devenir un État démocratique.
80%
en-dessus des seuils de pauvreté et 65% chômage, et on laisse les voitures dans la rue tout en sécurité, c'est un peuple qui mérite d'être respecté.
Nous,
c'est le peuple palestinien qui est demain. L'occupation, ça va être du passé, c'est hier.
Moi, j'étais
emprisonné 6 fois de la part d'Israël. Et j'étais emprisonné une fois aussi par Yasser Arafat.
Mais
je n'ai pas dit que l'intifada, ça va être contre Yasser Arafat.
Parce
que bon, j'ai une lecture et une analyse différentes de la situation.
هذه الانتفاضة ليست مثالية.
Cette intifada,
هذه القيادة ليست مثالية.
Le leadership, c'est pas un leader idéal pour le peuple palestinien.
ونحن أول من انتقدها.
Nous avons été les premiers à le critiquer.
ونحن أول من أعلى صوته.
Et nous avons les premiers à parler haut.
ونحن أول من دفع ثمنه.
Et nous avons été aussi les premiers à payer le prix pour avoir fait ces critiques. Nous avons parlé de l'empoisonnement politique, de l'arrestation des politiques, de l'expression, des libertés d'expression,
et
de l'opinion. Nous avons parlé de l'indépendance, de la justice, des tortures, des élections. Personne ne nous a écoutés. Le slogan de l'Amérique et d'Israël, c'était il faut sacrifier la démocratie, la loi et les droits de l'homme pour la sécurité et pour la paix. Et c'est ça le bilan d'aujourd'hui. C'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de démocratie.
démocratie, il n'y a pas de droit de, pour l'homme ici.
Aujourd'hui,
cela nous mène qu'à une situation vraiment suicidaire, de suicide.
Et des attentats.
Et cela mène pas, cela mène jamais à un mouvement politique réel. Le mouvement politique nécessite une liberté d'opinion, d'expression, nécessite l'arrêt des assassinats politiques, de l'arrestation politique. Ça nécessite toute une vie politique claire. Moi, ma confiance est dans le peuple. J'ai beaucoup plus de confiance aux gens, au peuple, que aux chefs politiques et politiciens.
Après 55
ans de catastrophe, nous parlons toujours d'un peuple vivant, selon tous les critères.
Un dernier mot sur Edouard Saïd.
C'était un génie aussi. Ouais, mais il peut pas. Bon. C'était un copain à lui.
Fin silencieuse et hommage court finalement à Edouard Saïd de la part de son ami Radji Sourani, avocat, je le rappelle, directeur du Centre des droits de l'homme de palestinien que nous avons rencontré à Gaza. Merci à lui, merci à notre traducteur à Nice. Technique aujourd'hui Michel Thomas et Julien Dumont, assistante Anne de Giaferi. Le répondeur c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Musique Koy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le mail de la page J'y suis c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Je répète daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.